RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Exceptionnellement, je vous propose jusqu'à 11h une rediffusion du 16 octobre dernier. C'était à l'occasion de la semaine missionnaire mondiale organisée par les OPM, les œuvres pontificales missionnaires. On se demandait comment accompagner et former les prêtres, les religieux, les religieuses qui viennent de l'étranger et qui arrivent en France dans une paroisse pour quelques mois ou quelques années. Il s'agit aussi de les intégrer, comme vous allez l'entendre. C'est une rediffusion, donc merci de ne pas appeler le standard et bonne écoute. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. On va prendre le temps de vous présenter chacun. Bonjour, Père Paulin Daniba.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, dans la paroisse bienheureuse Pauline Jaricot, qui est située dans le quartier de la Croix-Rousse, et vous venez du diocèse de Koupéla, c'est au Burkina Faso. On va apprendre votre parcours dans un instant. Merci d'être avec nous. Bonjour, sœur Marie-Pauline.
Bonjour.
Vous venez du Sénégal.
Oui.
Et vous êtes actuellement à Villefranche-sur-Saône, au sein de la congrégation Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres.
Exact.
Et là aussi, on va apprendre à vous connaître dans un instant. Bonjour, Georges Delrieux. Enfin, rebonjour.
Rebonjour, bien sûr.
Toujours, ça n'a pas changé depuis une heure, secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires. Juste une question, puisqu'on l'a reçue de Dieudonné, qui habite à Tours, et qui nous demande si ce mouvement des nouveaux missionnaires est vécu dans d'autres pays européens que la France.
Tout à fait. Alors, la France n'est pas un cas isolé.
Hein. Oui.
Les autres pays européens accueillent aussi des prêtres venant de l'étranger, que ce soit en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche. Voilà, moi je connais plusieurs prêtres qui viennent d'autres pays hors d'Europe et qui sont en fonction dans des diocèses européens.
Un mot sur également l'accompagnement, la formation des prêtres qui viennent de l'étranger. Pourquoi c'est essentiel, voire primordial, de les accompagner à leur arrivée?
Alors, il faut les accompagner parce qu'ils arrivent dans un monde qui est très différent du monde qu'ils connaissent, par la culture, par les habitudes, par la place de la religion aussi dans la société française, qui n'est pas du tout la même que celle qui prévaut dans le pays d'origine. Et ça, c'était une première difficulté. Il y a aussi une difficulté de langage, parce que même si tout le monde parle français, on ne parle pas tous le même français. Et on a parfois affaire à des personnes venant de l'étranger qui parlent un français qui est ou suranné ou incompréhensible. Donc il y a un petit travail à faire là-dessus pour se recoller sur le français d'aujourd'hui.
Voilà pour cette petite mise en bouche. Alors Père Paulin Daniba, on va apprendre à vous connaître. Vous êtes arrivé en France en septembre 2021.
Exactement.
Pourquoi avez-vous quitté le Burkina Faso? Et pendant combien de temps d'ailleurs vous l'avez quitté?
Présentement, je suis à ma troisième année qui commence.
Oui.
Voilà. Donc, j'ai été envoyé par mon évêque pour des études à la Cato.
À Lyon.
À Lyon.
Oui.
Et le diocèse de Lyon aussi m'a reçu parce qu'en fait, le diocèse de Koupéla est jumelé depuis la consécration de leur premier évêque, Monseigneur Dieudonné Yougoubaré, et au diocèse de Lyon. Et c'est dans ce cadre de jumelage et de coopération pastorale que je suis venu ici pour des études.
Est-ce que vous avez le choix de venir ou non en France?
Le choix, c'est-à-dire...
Est-ce que c'était une obligation de venir en France pour vous former, pour étudier, ou alors on vous a quand même laissé le choix de choisir?
C'est une proposition. En étant prêtre, on fait des vœux d'obéissance aussi. Et puis, on essaie de faire ce qui est bien pour le diocèse. Et en fonction de cela, l'évêque fait des propositions. Et si ça te convient, tu acceptes. Donc, j'ai accepté la proposition qu'il m'a faite. Et puis voilà, je suis venu.
Et pourquoi la Croix-Rousse? Est-ce que c'était comme ça?
Vous avez choisi
ça aussi?
J'ai pas choisi la Croix-Rousse. Je suis arrivé.
Un beau quartier,
et puis,
quand même.
Voilà, c'est ça. On m'a accueilli à l'aéroport. Monsieur Yves Chevalet nous a accueillis à l'aéroport. Et puis après, il m'a amené, il m'a dit que mon logement est là. J'ai pris note. Et puis voilà. Déjà que c'était le soir qu'on est arrivé. Et puis voilà, c'est parti pour. Ouais. Voilà, pour les activités.
Et est-ce que vous savez pendant combien de temps vous allez rester ici, à Lyon en l'occurrence?
La mission est pour 3 ans, j'ai déjà fait 2 ans, et maintenant il me reste la dernière année.
Voilà. Non renouvelable, c'est 3 ans fixes.
Ben là, maintenant, ça dépend de l'évêque aussi.
Ah,
et
oui.
Puis voilà, ça dépend de...
Et vous aimeriez rester ?
Bon...
ne se prononce pas.
Voilà.
Très bien.
Ça dépend des volontés des évêques.
Merci, Père Paulin, d'être avec nous. Alors, Sœur Marie-Pauline, là aussi, oui. On va apprendre à vous connaître. Vous êtes arrivée en 2021,
oui.
Tout comme Père Paulin, du Sénégal.
Oui,
alors, comment
sûr.
Ça s'est passé voilà, pareil. Est-ce qu'on vous a envoyé en mission pendant tant d'années?
Bon, bonjour à
bonjour.
Tout le monde. Voilà, donc, comme vous avez dit, c'est... J'ai été envoyée comme nous, on s'engage pour la mission. Le vœu de la mission, c'est un quatrième vœu de notre congrégation. Donc, quand l'appel a été fait ou la demande a été faite par l'évêque, Monseigneur Barbarin, à notre congrégation, qu'il y ait des missionnaires, une communauté au niveau de Villefranche-sur-Saône. Donc, après réflexion et discernement, bon, moi déjà, j'avais fait une mission ailleurs. J'ai demandé un temps de répit, si je peux dire, de renouvellement spirituel et tout, dans le but de repartir dans ma terre de mission. Et voilà qu'en cours d'année, on m'a dit, bon, tu seras envoyé à Villefranche-sur-Saône comme missionnaire. Donc, comme Père Paulin vient de le dire, j'ai fait vœu d'obéissance.
Oui.
J'ai répondu oui à la grâce de Dieu.
Et pendant combien de temps? Alors, 3 ans, pareil?
Oui, trois ans renouvelable. C'était le premier
contrat. Renouvelable, hein?
Voilà, ouais. Renouvelable. Le contrat qui a été fait entre le diocèse et la congrégation.
Et vous faites partie d'une congrégation, Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres,
oui.
Qui est présente partout dans le monde.
Oui, ouais. Partout dans le monde, ici en France. En Europe, nous sommes en France, en Italie, en Espagne. En Afrique, nous sommes au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, au Gabon, au Bénin. Au Congo, Kinshasa, et maintenant, présentement, parce que depuis octobre passé, on a fait une fusion avec une congrégation qui était au Centrafrique, donc nous sommes maintenant au Centrafrique, et en Amérique latine, à plusieurs pays, surtout l'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Paraguay, Bolivie, Mexique, Venezuela, et en Asie, nous sommes aux Philippines.
Ah bah, c'est impressionnant, une grande congrégation.
Oui.
Est-ce que vous êtes arrivé seul en France? Est-ce que vous êtes parti seul ou alors vous étiez plusieurs sœurs?
Nous sommes trois.
Trois sœurs.
Comme Jésus qui a envoyé les disciples de par Dieu, nous avons été envoyés, nous trois. Donc nous sommes trois Sénégalaises, dont une Libanaise qui est la responsable de la communauté, mais qui est née au Sénégal, sœur Carmen Halim, et sœur Thérèse Elisabeth et moi-même.
Et vous vous connaissiez toutes les trois?
Oui, parce que dans mes débuts de vie religieuse, j'ai eu à vivre 2 ans avec la sœur Thérèse Elisabeth et sœur Carmen aussi, j'ai eu à vivre avec elle deux temps de mission, si je peux le dire ainsi.
Ouais. Et vous, Père Paulin, est-ce que vous êtes arrivé seul en France?
Nous sommes arrivés deux prêtres, le père René Ouédraogo et moi, le même jour.
Donc vous vous connaissiez aussi?
Oui, nous nous connaissions, nous sommes du même diocèse, donc
bon,
habituellement chez nous, les prêtres du même diocèse se connaissent parce qu'on n'est pas très nombreux comme ça, une centaine, et puis bon, on a le temps de se frotter, on a beaucoup de rencontres entre nous, ce qui fait qu'on connaît généralement tous les prêtres. Quoi.
Georges Delrieux, quel regard vous portez sur Père Paulin et Sœur Marie-Pauline qui ont beaucoup de joie ce matin?
Moi, ça me rend très joyeux, déjà, c'est la première chose. C'est communicatif, la joie, vous savez. Mais l'intervention de Sœur Marie-Pauline, elle m'intéresse parce que vous avez beaucoup parlé des prêtres qui viennent en mission en France et on oublie le rôle des religieuses ou des religieux qui ont un rôle pastoral très fort par des petites communautés discrètes mais qui pratiquent un apostolat puissant auprès des enfants, auprès des familles. Et ça, c'est quelque chose qui échappe un peu aux écrans radars. On ne le voit pas trop. Mais c'est très important dans la société française pour aider à l'annonce.
On va accueillir Emmanuel au 04 72 38 20 23. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Bonjour à vous tous.
Je vais vous laisser couper votre radio derrière si possible.
Oui, je l'éteins.
Voilà, comme ça, il n'y aura pas d'écho pendant votre passage. Allez, on vous écoute, allez-y.
Elle a déjà été un petit peu abordée, c'est sur la formation et l'initiation des prêtres venant d'ailleurs qui arrivent ici en France. Mais je voudrais la compléter un petit peu cette question. Elle fait écho à une question d'une réflexion d'une amie africaine qui me disait il est impensable quand les prêtres, bon elle parlait de ces voilà de ceux qu'elle connaissait qui étaient africains, qui n'avaient pas une formation, une initiation, certains l'ont, mais est-elle systématique? Et surtout, disait-elle, pour apprendre à se connaître, une formation de la communauté qui accueille, c'est-à-dire une formation mutuelle et un temps qu'il faudrait prendre, disait-elle, pour apprendre à se connaître et savoir comment ça marchait là-bas, comment ça fonctionne ici, parce que ça génère quelquefois des malentendus, des incompréhensions et aussi de la souffrance pour certains pasteurs et certaines communautés. Donc c'est moins... Voilà, il y a ça, même si les uns et les autres ont bonne volonté, mais ce temps d'accueil, d'écoute et de formation mutuelle, en fait, sur qui je suis et comment ça fonctionnait avant, comment ça fonctionne ici.
Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel. C'est intéressant ce que vous dites ce matin. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'un prêtre qui arrive d'un prêtre ou d'un religieux, d'une religieuse, bien sûr, qui arrive d'une autre culture, ait une formation pour éviter des souffrances de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il y ait un vrai échange. Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour votre arrivée, Père Paulin, dans le diocèse de Lyon ?
Et dans le diocèse de Lyon, disons que, d'ailleurs, je suis d'abord arrivé un peu en retard, les cours avaient déjà commencé.
Oui.
Et donc, peu de temps après, il fallait quand même commencer. Et j'ai eu la chance d'avoir un prêtre camerounais qui était logé à la Croix-Rousse avec moi. C'est lui qui m'a montré un peu le métro, des choses comme ça rapidement.
Mais bon,
c'était assez rapidement. Et puis bon, je suis rentré dans la danse. Et pour ma part, j'avais déjà fait 2 séjours en France, donc il y a beaucoup de choses aussi que je connaissais déjà. Ça n'a pas été, au-delà de cela, très dur pour moi. J'ai essayé de m'insérer. Bon, dès l'enfance aussi, moi aussi, j'étais pas chez moi, j'étais un peu plus envoyé un peu partout là, chez des oncles, chez des tantes, ce qui fait que bon, s'adapter fait partie aussi de ma personnalité en tant que telle. Donc, j'ai essayé de prendre le train en marche et puis voilà, ça va. C'est vrai que y a des petites choses quand même. D'une ville à l'autre, ça change, mais on arrive à s'adapter. Nous avons aussi un peu une culture, disons, française, parce que l'école, déjà, dès le CP1, commence le français. Bon, on voit un peu les choses. Ça va un peu. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas été trop dur. Oui. Mais peut-être que ça dépend aussi des cultures, des zones. Où l'on vit, quoi. C'est ça.
Et vous, Sœur Marie-Pauline, comment avez-vous été accompagnée quand vous êtes arrivée en 2021 à Villefranche-sur-Saône? Oui. Est-ce que vous avez été accompagnée, d'ailleurs?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Bon, déjà, nous sommes arrivés en octobre, donc nous sommes passés à la Maison Mère, un temps de ressourcement spirituel et de passer une semaine à Lourdes pour prier, confier cette mission, nous confier nous-mêmes à Marie. Et vraiment... accueillir la grâce de Dieu, parce que comme on dit, dans toute mission, le Seigneur nous devance là où nous sommes envoyés. Alors après ça, donc, nous sommes venus sur Villefranche-sur-Saône, bien accueillis par la communauté.
Oui.
Je remercie au passage le curé Père Georges qui était là-bas, ainsi que la communauté. Et ensuite, comme la COREF organise une session qu'on appelle Welcome au niveau de Paris, donc j'ai eu à y participer. C'était au mois de février de l'année dernière. Alors, ça a été un temps de ressourcement déjà pour connaître le milieu de mission, qui est très important, pour déjà voir. Je viens d'ailleurs, je viens d'une autre réalité. La réalité que je vais embrasser, comment elle est, et comment je vais m'y adapter. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, cette semaine nous a permis, parce que nous étions des frères et des sœurs, de découvrir, entre guillemets, la réalité de la France, la mission qui nous attend, et de pouvoir nous orienter par rapport à ce que nous sommes et comment accueillir ce que nous allons trouver et qu'est-ce que nous allons recevoir d'eux.
Georges Delrieux, les religieux, comme Paulin, comme Marie-Pauline qu'on entend ce matin, qui viennent de l'étranger et qui arrivent en France, est-ce que vous considérez qu'ils sont bien accompagnés en France ?
Alors, je ne sais pas, je les connais pas tous, oui. Je ne connais pas tout l'accompagnement qui est réalisé. Vous savez, je suis très partagé entre penser aux missionnaires qui sont partis en Birmanie, au Congo, qui ne connaissaient rien du pays et qui ont réussi à dérouler leur mission, aidés par l'esprit. Et puis, on est aujourd'hui dans une société où on a quand même le devoir, parce que c'est une société qui est christianisée, on a le devoir d'accueillir les religieux et les prêtres. Aujourd'hui, il y a des accompagnements qui sont mis en place, soit par la CEF, soit par la COREF. Pour les religieux de la CEF, pour les prêtres.
Ouais.
Il y a aussi, dans chaque diocèse en général maintenant, il y a un prêtre qui est responsable des communautés étrangères ou des prêtres d'origine étrangère pour organiser l'accueil, l'équilibre dans le diocèse. Oui, mais je pense que c'est d'abord la communauté sur place qui doit faire l'effort d'accueillir les religieux ou les prêtres qui leur sont envoyés. Ça commence par ça. Ce qu'expliquait le père tout à l'heure, c'est si on commence à inviter une religieuse ou un père à déjeuner le dimanche ou à venir manger dans la semaine, tout d'un coup, la découverte va se faire très naturellement et ça va bien fonctionner. Je pense que c'est d'abord le tissu relationnel qui va permettre l'intégration.
Et toujours avec le père Paulin Daniba, sœur Marie-Pauline et Georges Delrieux. Bonjour Marie-Cécile.
Bonjour. Bonjour à vous tous. Merci pour cette émission. Bah, écoutez, je voudrais témoigner de quelque chose que je viens de vivre. Je suis partie pour une cure, car j'ai des problèmes de santé, une cure thermale dans un petit village des Pyrénées. Et j'en ai besoin et j'étais toute heureuse en arrivant quand j'ai vu qu'il y avait la messe tous les jours proposée dans le petit village. Moi qui suis une chrétienne engagée, animée aussi, évidemment j'y suis allée et c'était un prêtre du Tchad et Abdel, on sait bien, il était super, on s'est présenté. Alors on n'était que 3 ou 4 cette messe du soir.
Oui.
Et j'étais très triste de voir ça parce que à la cure, on est plus de 1000. Il y a une réunion d'information chaque semaine avec des intervenants, des partenaires des termes pour la naturopathie, le Qigong, la mairie, plein de partenaires. Et je me suis dit, mais ce serait bien que aussi l'Église soit là. Et je me suis permis de dire à Abel, vous savez, moi je serais prête à aller avec vous pour aller rencontrer la directrice des termes et qu'on propose aussi quelque chose. Et il m'a répondu, tac au tac, mais c'est pas la peine, il y a une affiche. Ça m'a sidérée, bon, j'ai ri, je me suis dit, bon, c'est pas mûr, mais j'y suis allée à la messe tous les jours avec lui et je l'ai aidé dans la sacristie. J'ai même parlé un peu. J'allais à la messe du dimanche. À la messe du dimanche, il y avait un autre prêtre noir. Ils ont fait des homélies merveilleuses parce que c'est des gens formés. Ils sont formidables. Ils ont un esprit missionnaire, effectivement. Ils ouvrent le cœur, ils enflamment le cœur. Donc, même des gens dans l'assemblée ont dit « Oh, ben dis donc, c'est une belle homélie. Je viendrai la semaine prochaine. » J'ai dit « Bon, oui, il y a la semaine. »
Ça vous a marqué, on entend Marie-Cécile, et merci beaucoup vraiment d'avoir témoigné ce matin dans Je pense donc j'agis. Et Marie-Cécile qui nous disait, et ils ont, en parlant du prêtre, l'esprit missionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, sœur Marie-Pauline, d'avoir l'esprit missionnaire?
Pour moi, avoir l'esprit missionnaire, c'est déjà se laisser emporter par l'évangile. Voilà. Se laisser emporter par l'évangile et là où elle te mène. Et dans ça, comme on dit, s'inculturer. Parce que quand j'arrive dans un milieu, je la vois autre, il faut que j'apprenne à la sentir, à le sentir du moins, à découvrir les personnes, leurs besoins, la place de l'évangile dans le cœur des hommes par rapport à leur façon de vivre, leur témoignage, etc. Et arriver, donc je ne viendrai pas pour tout de suite dire que bon, je viens avec quelque chose que je dois imposer, mais je regarde, j'accueille et avec cela voir comment on peut cheminer ensemble sur ce chemin de l'évangélisation.
Et vous, Père Paulin Daniba, qu'est-ce que c'est avoir l'esprit missionnaire?
Dans l'Église, nous avons les deux dimensions de la mission à l'intérieur et puis la mission à l'extérieur, ad intra et puis ad extra. Et c'est la même mission, aller de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils, et apprenez-leur à observer tout ce que, tous les commandements que je vous ai donnés. Et c'est vrai que la dimension interne, humainement parlant, anthropologiquement parlant, on est dans son domaine, il y a moins de détachement. Mais une fois qu'on quitte sa sphère de culture, de pays, ainsi de suite, et on part ailleurs, il y a une autre dimension qui s'ajoute. Et c'est vrai que j'avais déjà fait 2-3 mois un peu en France ici, mais cette fois-ci, c'est un peu plus long. Et j'arrive aussi à comprendre à travers ce que je ressens et une profonde admiration pour tous ces pères-là qui et en leur temps ont laissé leur famille pour venir. C'était pas aussi rapide, on pouvait pas aussi voyager rapidement comme actuellement. Il fallait prendre le bateau, faire 2 semaines, 3 semaines avant d'arriver. Après, il faut peut-être 2 ans.
Parlez bien dans le micro.
2 ans avant de revenir, ou 3 ans avant de revenir. Je suis actuellement, je suis en train de mesurer toute la force de mission qu'ils avaient pour venir en Afrique, surtout à des conditions moins que ce qu'ils ont vécu. Ouais. Chez nous, peut-être, en venant ici, il y a un peu plus de facilité que chez nous. Mais chez eux, c'était le contraire. Ils ont quitté, disons, une abondance pour une situation un peu plus inconfortable par rapport à eux.
Donc ça a beaucoup changé. Voilà, c'est ce qu'on entend. Et Georges Delrue, ça, vous le prenez en compte aussi dans les OPM? Ce changement de j'allais dire de confort, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas la mission a beaucoup évolué.
Alors la mission a beaucoup évolué, la condition aussi des missionnaires ou des missionnaires en formation a beaucoup évolué, et aujourd'hui on est plus attentif effectivement à un certain nombre d'aspects. Mais vous savez, on est en train de parler de confort, mais quand on vote des subsides pour qu'il y ait une réserve d'eau potable dans une école, ou pour que les élèves d'un séminariste puissent cultiver leur potager afin de se nourrir, on est encore loin de la notion de confort.
Ouais.
On est dans le très matériel, très concret. Et puis je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure avec la sœur, avec le père, sur l'esprit missionnaire. Tous les ans, on a une réunion à Rome. Et c'est notre assemblée internationale, on est reçu par le Saint-Père. Et en fait, il nous dit, l'esprit missionnaire, c'est commencer par être des témoins. Mmh. C'est-à-dire que votre vie soit un témoignage, et vous serez de bons missionnaires. Commencez par ça. Donc c'est la conversion missionnaire personnelle qu'il faut entamer avant d'aller annoncer.
Jean-Luc, vous êtes à Roanne et on vous accueille. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour à vous. Alors d'abord, un grand bonjour à Marie-Pauline, que je connais bien par l'hospitalité de Lourdes, et puis à Père Paulin, parce que je crois qu'on s'est croisé plusieurs fois chez une certaine Eliane Glotte. Voilà, c'était juste un petit message personnel à vos deux invités que je suis heureux d'entendre sur RCF. Alors moi, j'ai plusieurs réactions, questions. La première, c'est que j'ai accompagné pendant, on va dire, 2 ans un prêtre en formation à Lyon et à la Cato, et qui avait été mis en paroisse à 100 kilomètres à Roanne, justement dans la campagne de Roanne. Et pour lui, ça a été très dur. Et je trouve que ça a été compliqué pour un prêtre qui arrivait juste du Rwanda de se retrouver aussi loin de son lieu de formation. Et il l'a pas très bien vécu d'ailleurs. Et ça pose la question aussi, je crois qu'une nouvelle autrice l'a déjà un peu souligné, de comment on accompagne ces prêtres une fois qu'ils sont arrivés sur notre territoire. La formation, mais aussi même après leur arrivée, parce que lui me semblait, enfin c'est ce qui me témoignait, assez isolé, il avait beaucoup de mal à avoir tel interlocuteur quand il avait des soucis. Et puis la troisième réaction, c'est par rapport aux communautés paroissiales qui les accueillent, ça aussi je crois que ça a déjà été un peu dit, c'est-à-dire que je crois qu'il serait indispensable que les communautés soient à la fois d'abord préparées à accueillir un prêtre, même si c'est un prêtre étudiant qui est là que les week-ends, au sens de connaître un peu la réalité d'où il vient. Et puis, je trouve qu'il serait intéressant qu'il y ait des soirées de présentation où le prêtre puisse vraiment se présenter et dire d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu auparavant. Enfin, voilà.
Qu'il y ait des échanges au sein de la communauté paroissiale, oui.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Donc, ce serait plus long parce que il faut limiter le temps.
Ben, merci beaucoup, Jean-Luc, d'avoir pris le temps d'aborder ces points ce matin dans Je pense, donc j'agis. Alors, déjà, vous êtes connu, on l'entend, sœur Marie-Pauline et Père Paulin. Mais plus sérieusement, sur la formation, une fois que vous êtes arrivé, vous, à Villefranche-sur-Saône, sœur Marie-Pauline, est-ce qu'il y a eu un suivi est-ce qu'on vous a suivi? Est-ce que vous avez été accompagné, mais après votre arrivée et encore maintenant?
Oui, effectivement, parce que comme j'ai dit, et ce que j'ai retenu de la session Welcome, j'y reviens, on a les 3 étapes. L'étape de lune de miel, qui est la première année, si on peut le dire ainsi. Après, l'étape d'initiation et l'étape d'adaptation. Je le résume en ces 3 mots. Et notre première année à Villefranche, au fait, ça a été une étape de lune de miel, parce que dès qu'on est arrivé, le curé et tout, il nous a dit, il y a plein de choses à faire. Prenez le temps de découvrir les différentes missions de la paroisse. Alors, chaque groupe qui se rencontrait et tout nous invitait, on y allait pour voir et pour se dire, bon, par rapport à notre charisme, par rapport à nos talents ou nos capacités,
oui,
où est-ce qu'on pense pouvoir amener quelque chose, apporter quelque chose ou bien nous intégrer. Donc, toute une année, on a été comme ça et comme on le dit, joindre l'utile à l'agréable, les familles nous invitaient. Il y avait le souci beaucoup apporter, est-ce qu'il vous manquait des choses et tout. Donc, et s'il y avait des formations au niveau catéchiste et tout, on nous invitait à participer à ces formations. Mmh. Et cela a été une richesse pour nous. Et après la deuxième année, donc, on a choisi les différents lieux de mission où nous pensons nous engager. Moi qui suis du côté de l'aumônerie, de la jeunesse et tout, la catéchèse. L'autre, ma sœur Thérèse Elisabeth au niveau des funérailles, l'alphabétisation des maghrébines et sœur Carmen qui est au niveau de la gestion parce que c'est une maison Sainte-Anne qui nous a été confiée.
Oui.
Donc, qui accompagne une autre laïque qui travaille ensemble. Donc, et cette année, je peux dire que nous sommes encore bien lancés et vraiment les responsables des différents groupes n'hésitent pas à nous inviter pour les formations.
Donc, vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on entend vraiment dans votre témoignage. Oui. On entendait Jean-Luc qui nous parlait de l'exemple de ce prêtre qui avait été envoyé à une centaine de kilomètres de Lyon, près du Rwanda, qui était vraiment un peu laissé seul, peut-être dans une paroisse, j'allais dire un peu paumé, excusez-moi de mettre ce mot entre guillemets ce matin. Et Georges Delerue, vous étiez mécontent en entendant ce témoignage.
Non, je suis pas mécontent, je suis pas étonné, parce que vous savez...
C'est différent alors.
En tant qu'Église, nous sommes aussi des êtres humains, nous sommes aussi des pêcheurs, et il y a aussi des situations qui sont compliquées. Moi, j'ai vu des prêtres arriver dans le diocèse et repartir au bout de 6 mois parce que l'intégration ne se faisait pas pour des tas de raisons. Mmh. Et voilà, mais il faut pas considérer que c'est un échec. Quand la mission peut pas se faire, elle se fait pas. Peut-être que c'était pas la volonté du Seigneur. Donc c'est un peu compliqué. Mais effectivement, je pense que c'est Sœur Marie-Pauline a raison d'insister. C'est vraiment la communauté qui doit accueillir. Et la communauté devrait se réjouir de recevoir des missionnaires, devrait se réjouir d'être relancé dans sa foi, enrichi par les homélies. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations parfois qui, sur le plan matériel, viennent gêner le fonctionnement. Oui. L'exemple qui a été donné, c'est très compliqué
pour
le père.
Oui.
Vous avez parfois aussi des religieux ou des pères qui viennent de l'étranger qui n'ont pas le permis. Et on les met dans des situations difficiles parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer facilement. Oui. Donc ça, en général, c'est pris en compte par les diocèses. Dans chaque diocèse, vous avez aussi un prêtre qui est responsable de la vie religieuse, donc qui est attentif à ce qui se passe dans les communautés en place dans le diocèse. Mmh. Voilà. Et c'est vrai aussi que dans la situation des communautés religieuses qui arrivent dans les diocèses, c'est parfois compliqué parce que vous avez 3 religieux ou 3 religieuses qui ne se connaissent pas très bien et qui arrivent ensemble. Et là, il va falloir apprendre à vivre.
Et la suite de cette rediffusion de Je pense donc j'agis du 16 octobre dernier consacré à l'accompagnement des religieuses, prêtres et religieux étrangers qui arrivent en France, c'est dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard.
C'est une belle rencontre hein, que vous entendez ce matin dans Je pense donc j'agis avec un prêtre, une religieuse et Georges Delrieux des œuvres pontificales missionnaires pour parler de l'accompagnement de toutes ces personnes qui arrivent en France pour 3 ans, 6 ans en fonction de la durée de leur mission. On accueillera Catherine et Marguerite qui voudront témoigner dans un instant. On va écouter de la musique et Père Paulin, vous me l'avez envoyé cette nuit pour être tout à fait transparent, une chanson de circonstance, cœur ardents, pieds en chemin. Qu'est-ce que c'est cette musique? Pouvez-nous la présenter?
Cette musique, c'est en fait un chant composé à partir du thème des OPM de cette année.
Oui, la Semaine Missionnaire Mondiale.
Voilà, parce qu'au Burkina, les OPM, la direction des OPM essaie de lancer un appel à composition. Il y a un concours qui se fait et puis on choisit des chants pour l'animation. Chez nous, c'est un peu tout le mois. D'octobre qu'on utilise pour l'animation. Donc il y a un chant français, un chant moré, un chant djoula et puis un chant Ngulma Kema. Mm. Et ça c'est le chant en français. Et voilà, ça permet de d'animer toutes les activités
Lors de cette semaine.
Voilà, lors de cette semaine. Et après, parfois aussi, il y a beaucoup de chants aussi qui restent pour la liturgie, c'est sûr. Alors, c'est pour la liturgie.
C'est un chant qui est un peu long. On va pas l'entendre entièrement si ça vous dérange pas.
Non, pas de problème.
Ça dansait un petit peu en studio. Je vous voyais, Georges Delrieux, chanter cette chanson. Est-ce que ça part des OPM, ça part des œuvres pontificales missionnaires?
Alors oui, parce que c'est organisé par le Père Isidore, qui est mon collègue du Burkina, qui a une activité très forte. Tout à l'heure, on parlait de l'annonce et de la collecte des OPM, mais tous les pays du monde collectent, et le Burkina aussi.
Oui.
Et alors le Père Isidore est un directeur national des OPM très convaincant, très communicatif, très efficace. Donc il organise des concours pour avoir la meilleure chanson. Il organise même des concours entre les paroisses pour savoir quelle est la paroisse qui va donner le plus au moment du dimanche de la semaine missionnaire. C'est quelque chose qu'on aurait du mal à organiser en France, mais c'est quelque chose qui est très accepté hein, au Burkina ou dans d'autres pays.
Et là, c'est un refrain commun pour.
Alors
pour...
Oui, le thème.
Parce que la... vous voyez, vous le connaissez par cœur. Hein, oui, je le pense thème... que vous l'avez beaucoup entendu.
Vous avez déjà écouté. Le thème de la semaine missionnaire est décidé chaque année à Rome. Hein, et donc, c'est le... on partage tous dans le monde le même thème pour la semaine missionnaire.
Bon, ben voilà, cette chanson qui donne beaucoup de joie, et voilà, ça donne ça. Envie de bouger également.
Les pieds en chemin.
Exactement. Georges Delrieux, je rappelle que vous êtes secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires. Nous sommes également avec Père Paulin d'Amiba, prêtre du diocèse de Lyon dans la paroisse bienheureuse Pauline Jaricot, qui est située dans le quartier de la Croix-Rousse, et vous venez du diocèse de Koupéla au Burkina Faso. Et puis Sœur Marie-Pauline également avec nous, vous venez du Sénégal et vous êtes actuellement à Villefranche-sur-Saône au sein de la Congrégation Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour. Je m'appelle donc Catherine.
Oui.
Et je suis du diocèse de Versailles et je voulais apporter mon témoignage, un témoignage très fort de rencontre spirituelle avec un père qui est venu au mois d'août pour remplacer notre curé qui était en vacances. Et ce prêtre qui s'appelle Père Emmanuel est venu donc tout le mois d'août et ça a été formidable pour notre paroisse. Bien que c'était le mois d'août et les congés, il a apporté une lumière. Mais vraiment, et je me suis dit, tiens, je vais l'inviter à notre repas familial. Il est venu le lendemain du 15 août, et là, ça a été une découverte. D'abord, il est arrivé chez nous, il a béni la maison. J'ai eu l'impression, vous savez, comme dans l'évangile, les pèlerins d'Emmaüs, ils ont reconnu le Christ quand il a partagé le pain. Et ça a été une joie formidable. À la fin du repas, il y avait une petite glace, et il a chanté chez nous, soyez reine. Prêtre très marial, comme moi d'ailleurs, et on espère tous qu'il reviendra l'année prochaine. Voilà.
Merci beaucoup Catherine pour votre témoignage depuis Versailles. Bah, ça tombe bien puisque ça rejoint totalement le témoignage de Jean-Luc tout à l'heure qui nous parlait de l'importance de la communauté paroissiale et de l'accompagnement aussi par les paroissiens. Vous, comment ça s'est passé, Père Paulin d'Amiba, dans le diocèse de Lyon? Est-ce que vous avez été invité peut-être chez des paroissiens?
Oui, j'ai été plusieurs fois invité. Ben, je peux dire aussi que l'accueil, en fait, se fait à plusieurs niveaux.
Oui.
Par exemple, pour nous, les prêtres étudiants, et au niveau diocésain, il y a déjà une institution qui nous accueille. Et actuellement, c'est le Père Clémentin qui est le responsable. On a Sophie Hamel, et puis on a Monsieur Yves Chevalet qui sont dans la commission qui nous aident pour beaucoup de papiers. Vous savez, il y a beaucoup de papiers à faire, ils nous aident à cela. Et si on a des difficultés, on a un référent direct à qui on peut s'adresser pour avoir. Et puis bon, ils sont habituellement très disposés à nous accompagner. Donc au niveau institutionnel, on a déjà cette structure-là.
Oui.
Et au niveau paroissial, parfois ça dépend de quand on est venu juste pour les études, quand on est venu pour la paroisse, c'est un peu différent. Et aussi parfois le logement. Il y a d'autres qui sont peut-être parfois logés un peu ailleurs. Et puis comme ici, les gens sont un peu logés. Chez moi, à la Croix-Rousse, j'ai été bien reçu avec le curé Laurent de Pomerol. On mange habituellement les samedis midi ensemble. Chaque fois, tant qu'il n'y a pas de difficultés, on organise un peu les choses. Mais là-bas, en fait, moi, je suis logé là-bas, mais je travaille. Je rends service les week-ends sur la paroisse de Gerland et de la Guillotière, donc Saint-Louis de la... Voilà. Donc, là-bas aussi, j'ai été bien accueilli. On a eu des temps où on a partagé un repas ensemble. On a discuté sur la vie. Voilà, donc ça va.
Et vous, Sœur Marie-Pauline, est-ce que vous avez peut-être été invitée par des locaux, en tout cas à Villefranche-sur-Saône?
Oui, effectivement. Nous avons été invités dès le début. Déjà, la première famille qui nous a invités, sachant que nous venions du Sénégal, et il avait une tante qui était carmélite. Au Carmel, au Sénégal. Et lui-même, il a été déjà au Sénégal. Donc, ça a été la première famille à nous accueillir. Et de bouche à oreille, ou je ne sais pas, peut-être d'autres qui entendent ou qui ont eu cette envie d'accueillir, parce que c'était une joie de voir des religieuses venir sur Villefranche.
Oui.
Alors, c'était cette envie de les accueillir dans la maison. Parce que nous, au début, comme chez nous, en culture africaine, d'habitude, dès qu'on arrive, c'est nous qui allons vers les personnes, essayer de nous présenter, déjà les voisins, etc. et tout. Mais là, on hésitait parce qu'on dit il faut se laisser inviter ou se laisser accueillir. Mais vraiment, les paroissiens ont été très ouverts pour vraiment nous inviter à manger. Et quand on a lancé l'année dernière la fête des voisins.
Ah oui.
Voilà, donc pour les accueillir chez nous. Alors, ils étaient émerveillés, c'était un petit nombre. Ils sont venus, on a chacun amené quelque chose, on a partagé ensemble, oui. Passé une petite soirée de louanges et de chants profanes. Et ils ont, cette année, ouais. Vendredi là, on l'a refait et c'était une grande joie encore.
Vous aviez cuisiné, vous?
Oui, oui. Et chaque fois qu'il y a les rencontres...
Un plat du Sénégal,
du Sénégal, oui.
Qu'est-ce que c'était?
Bon, il y a le... Comment on appelle? Le yassa.
Yassa.
Le yassa, oui. C'est un riz sénégalais avec le tchéboudienne, comme on dit, c'est le riz au poisson. En fait, ce sont les deux plats qu'on présente souvent aux Français quand ils viennent au Sénégal. Et un autre repas qui est fait avec les cheveux d'ange. Vous les appelez ici les cheveux d'ange.
Oui, ce sont les pâtes qui sont très, très fines.
Voilà, donc le plat qu'on a fait, ils ont dit, on n'a jamais vu manger préparé dans ce... Parce qu'ils le mettent souvent dans la soupe. Mais nous, on le prépare autrement.
Bon, bah, alors, voilà pourquoi il faut inviter les prêtres et les religieux. Voilà. C'est pour bien manger. Non, mais plus sérieusement, on entend à quel point c'est très important de faire ces rencontres. Et comme va le témoigner tout de suite Marguerite. Bonjour Marguerite.
Oui, bonjour. Bonjour Melchior. Bonjour à tous. Je ne sais que redire ce qui a été dit précédemment, en fait. Hein, parce que moi, j'habite un petit village du Bourbonnais pendant une partie de l'année. Et il y a deux ans, un prêtre du Togo est venu, évidemment. Je dis évidemment, je l'ai invité à dîner après la messe. Et mon mari et moi étions absolument ravis parce que je pars du principe qu'il faut faire pour les autres ce que l'on aimerait qu'on fasse pour soi. Et ça a été une grande joie de l'accueillir. D'ailleurs, et non seulement pour le remercier, lui, mais pour associer sa famille, d'accepter de bon cœur, de voir partir leur fils à l'étranger pour, ça peut être un an, ça peut être 6 ans. Et donc j'associe toujours les mamans, les papas, les frères et sœurs. Et cette année, on a eu aussi la joie d'accueillir là un prêtre qui était en quelque sorte, qui venait prêter main forte à notre prêtre, qui était nommé dans une autre paroisse, et il avait une voix absolument magnifique. Dès qu'il est arrivé, il a fait partie de la chorale d'un petit village à côté. Quand il a dû partir, parce qu'il était nommé ailleurs, les paroissiens étaient tristes. Alors, inutile de parler des choristes, une voix d'homme, et accueillir quelqu'un d'optimiste, de jovial, je veux dire, c'est quelqu'un de presque irremplaçable. Et vous pouvez pas vous imaginer la joie que l'on a à ouvrir sa porte, partager un repas. Je trouve que c'est formidable.
Merci beaucoup Marguerite d'avoir témoigné dans Je pense donc j'agis. C'est très marquant ce qu'elle vient de nous dire. Je crois que je fais pour eux ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Georges Delrieux, ça vous parle?
C'est ça la conversion du cœur missionnaire.
Voilà.
C'est exactement ça.
Elle a tout dit,
votre auditrice. C'est ça. Moi, je peux vous dire que dans ma paroisse, j'ai accueilli comme ça un père béninois qui s'est présenté à moi dans une réunion à la mairie, donc je ne le connaissais pas. Il vient me voir, me dit bonjour, et il me dit « Quand est-ce que je viens dîner chez vous ?» Je lui dis « Ce soir, mon père, pas de problème. »
Allez, c'est parti.
Et noir, c'est parti. Il m'a fait rentrer après dans l'équipe d'animation. Je fais plein de choses avec lui. Et c'est vraiment une rencontre. Ce qu'expliquait votre auditrice, c'est la rencontre qui est là, qui est au cœur de tout ça.
Ouais, on a un message d'une auditrice, Catherine, qui nous dit « J'adore les prêtres africains, ils ont une bienveillance si palpable, une bonhomie qui fait du bien, un charisme qui va bien, également dans cette émission. Et pour peu qu'ils aient de l'humour, c'est le top. » Vous avez de l'humour tous les deux? J'ai l'impression quand même. Allez, on va continuer avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Eh bien, bonjour à tous. Je vais d'abord remercier tous ces prêtres africains missionnaires qui viennent
prêtres
chez nous.
Et religieux, religieuses, hein. Ne les oublions pas.
Et religieux, religieuses. Bien. Alors, il y a une chose qui me désole, c'est lorsque je sors de l'église, après la messe, et que je bavarde avec les paroissiens, et que certains me disent « Oh ben, j'ai rien compris ». Donc, ma question est la suivante, comment employer des mots pour proposer aux prêtres en question ou aux religieux en question, pour leur proposer de perfectionner leur accent. Je ne sais pas si vous, je me fais bien comprendre.
Mais c'est très intéressant, Elisabeth, et vous n'êtes pas la seule à dire ça. On a reçu tout à l'heure un message de Geneviève de La Rochelle qui nous dit « Les prêtres et religieuses, bien sûr, je vous inclus dedans, qui ne sont peut-être pas préparés assez à la mission et ils parlent parfois une langue qu'on ne comprend pas ou en tout cas avec un accent très fort. C'est une réalité, Georges Dalrieux ?
Oui, absolument. C'est une réalité que je connais bien par mon expérience personnel, puisque j'ai dirigé un centre de formation aux Français avant de rejoindre les OPM. Donc c'est une réalité que je voyais tous les jours. Et effectivement, beaucoup de diocèses me disaient « Oui, non, mais nous n'avons pas de prêtres étrangers à former. Tous nos prêtres qui viennent sont francophones. » Et je leur posais la question. Et bien sûr, tout le monde comprend leurs homélies. Et là, la réponse était assez vague. Il est évident que chaque pays, déjà à l'intérieur de notre pays, nous avons des accents différents.
Oui, alors là, oui.
Entre le nord et le sud, on a des accents très différents. Et donc, vous pouvez imaginer qu'entre différents pays africains, les accents sont très différents. Il y a des formations qui existent. Les OPM ont financé pendant longtemps des formations au français ou à l'amélioration du français. Il y a des formations qui existent aussi pour aider à mieux prononcer certains mots. Souvent, c'est des formations qui sont assez courtes. Ce sont des réflexes à adopter. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que vous pouvez avoir une belle homélie, mais l'accent fait que les fidèles ont du mal à comprendre et en fait, ça perd du sel, quoi. C'est un peu décevant et déroutant à la fois pour le père qui a préparé son homélie avec cœur et avec envie, et puis pour ceux qui ont envie de l'écouter. Donc il y a des outils aujourd'hui qui existent, hein, des outils, ça va du laboratoire de langue à l'orthophonie, enfin il y a différentes choses qui existent pour aider à améliorer la prononciation du français et permettre qu'il y ait une bonne compréhension des différents intervenants.
Est-ce que ça peut être justement un frein dans beaucoup de paroisses?
Oui, ça peut être un frein parce qu'effectivement, si vous avez une communauté qui, on va dire, tous les dimanches n'arrive pas à comprendre l'homélie du père, ça va être très, très rapidement une difficulté. Mmh. Hein. Je pense que le père qui est à côté de moi peut le comprendre parfaitement. Donc il faut réagir. Il y a des diocèses qui sont très ouverts à ça, qui le font et qui mettent en place des formations.
Un petit plan de formation,
tout à fait, tout à fait. Oui.
Mais comme d'ailleurs quelqu'un qui réside dans un autre pays et qui n'a pas encore la maîtrise parfaite de la langue, je trouve que vous vous exprimez bien. Enfin, je vous le dis, sœur Marie-Pauline et père Paulin. Mais est-ce que peut-être que au début, en 2021, vous avez eu des remarques en ce sens, père Paulin?
Oui. Et je pense que c'est toujours bien de faire un retour bienveillant au prêtre ou bien au frère et à la religieuse qui est là.
Oui.
Parce que parfois on ne sait pas que les gens ne comprennent pas.
Oui.
Mais une fois qu'on vient te le dire, ils peuvent dire par exemple un peu de conseil, aller un peu plus lentement, ou bien prononcer un peu plus. Voilà, des choses comme ça, ça permet à la personne de revoir un peu sa manière de lire ou bien de donner son homélie. Et moi, je préfère qu'on vienne me le dire et qu'on dise, voilà, donner des remarques pour que je puisse m'améliorer. Parce que, effectivement, les cultures ne sont pas les mêmes, les prononciations ne sont pas les mêmes. Et parfois aussi, les mots, la compréhension des mots aussi, sont parfois un peu... Le contenu est parfois un peu différent.
Donc vous êtes en France, père Paulin et sœur Marie-Pauline, depuis septembre-octobre 2021, pendant 3 ans, renouvelable, alors à voir, en fonction de vos envies. Qu'est-ce que vous allez faire après? Est-ce que vous savez, vous allez retourner, vous, donc au Burkina Faso, et vous, sœur Marie-Pauline, au Sénégal, et après, vous allez reprendre votre vie au Sénégal?
Bon, pour le moment, je ne sais pas.
Oui.
Voilà, je ne sais pas. Moi, comme je dis, quand je pars dans un lieu de mission, chaque fois, je reste ouverte à ce que le Seigneur attend de moi et ce que la congrégation attend de moi. Voilà, parce que je ne fais pas de prévision de dire que après ces 3 années de France, donc je pense aller à tel endroit, je ferai ceci et ce. Je reste abandonnée.
Oui.
Et voilà, donc... Parce que nous, tu peux faire ton projet et après il y a un besoin par-ci, par-là. Je peux dire je vais retourner au Sénégal, mais avant la fin des 3 ans, on m'a dit que tu iras au Brésil.
Oui.
Donc voilà.
Est-ce que ça peut venir de vous? C'est-à-dire que vous disiez à votre supérieure, je ne sais pas comment elle s'appelle.
Oui, la supérieure provinciale ou la générale.
Voilà, oui. De lui dire, moi j'aimerais partir en mission, peut-être en Asie. Est-ce que ça peut venir de vous? Ou alors vous préférez attendre?
Bon, ça peut venir de moi parce que comme on partage beaucoup les missions, on peut sentir les besoins par-ci, par-là. Et selon peut-être mes capacités, entre guillemets, je peux dire, bon, je sens un besoin, je peux me proposer pour dire à la supérieure, bon, s'il y a besoin pour telle mission, je suis prête à y aller. Voilà, mais je reste à l'écoute de ce que vous préférez de moi et ce que vous souhaiterez.
Et vous, Père Paulin ?
Jusque-là, j'ai pas proposé particulièrement une destination. On m'a toujours proposé et parfois, bon, je pensais que j'allais faire un peu plus de temps là où j'étais pour dire partir. Voilà, je suis parti. Mais dans toute proposition, l'évêque ou celui qui l'a envoyé rencontrer le prêtre, il discute un peu et puis bon, il fait part aussi de ses envies, ses petits projets. Et puis bon, après ça, l'évêque confirme soit ce qu'il il a prévu ou soit il modifie. Mais bon, pour le moment, je suis pas encore arrivé à l'âge où il faut obligé à changer par rapport à moi. C'est pas que dit qu'il y a un âge, mais bon, là où il m'a envoyé, je suis parti.
On verra bien. Ce que je vous propose...
Je voulais dire, chez nous, par exemple, il y a cette phrase qui doit habiter chaque sœur de l'Immaculée Conception. Allez là où la voix du pauvre vous appelle. Voilà. Donc, il faut s'attendre à tout. La voix du pauvre, elle est partout. Donc, il faut être prêt à y aller.
Pour terminer cette émission, Georges Delrieux, cette semaine missionnaire mondiale, elle est importante pour les catholiques du monde entier, pour les OPM aussi.
Oui, elle est importante pour tous les catholiques, pour tous les pays. On a vu évoluer à la fois l'annonce, les conversions missionnaires, l'esprit missionnaire, et puis on a aussi besoin d'alimenter toutes ces actions. Lorsqu'on entend tout à l'heure, par exemple, une très belle chanson qui vient de chez nos frères burkinabés, mais il a fallu des moyens pour la réaliser, cette chanson. Il faut l'enregistrer, il faut la transférer, etc. Donc la mission a toujours besoin d'être alimentée. C'était l'intuition de Pauline Géricault, la Lyonnaise qui a créé la propagation de la foi, c'est de dire il faut aider les missionnaires. Ils ont la foi, ils ont le feu sacré, c'est vrai, mais il faut quand même qu'ils mangent, il faut qu'ils arrivent à se déplacer, etc. Donc c'est toujours vrai et c'est toujours nécessaire.
Et merci au père Paulin Damiba, prêtre du diocèse de Lyon dans la paroisse bienheureuse Pauline Géricault du quartier de la Croix-Rousse à Lyon qui nous accompagnait. Il venait du diocèse de Koupéla au Burkina Faso. Merci également à sœur Marie-Pauline qui vient du Sénégal et qui fait partie de la congrégation Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres. Et merci à Georges Delrieux, secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires. C'est la fin de cette rediffusion de Je pense donc j'agis. Je vous souhaite une bonne journée.
Les musiciens de Casamance sont marabout de présent rien. C'est tout un peuple fou qui danse comme s'il allait mourir de joie. Afrique, adieu. Et de Saint-Louis à Yaoundé, des lacs salés au vieux Kenya. C'est tout un peuple qui va danser comme s'il allait mourir de joie.
Afrique, adieu, là où tu es.